Salut, salut.
Bonjour à tous.
Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce tout premier épisode de la nouvelle émission sur Radio Béton 93.6. Qu'est-ce qu'on bouffe ? Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on bouffe ?
Qu'est-ce qu'on bouffe ? C'est une émission qui parle de bouffe, en général, au sens large du terme. Ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on consomme.
Mais aussi, bah, comment s'élever, ramasser, cueillir, vendanger, cuisiner, bref, quoi et comment ?
Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on aime comprendre, on connaît plein de producteurs, on a envie de les inviter, de leur donner la parole.
Et puis c'est pour ça que chaque semaine, on va avoir une invitée qui va venir nous parler, nous expliquer son métier, sa passion, quoi. C'est alléchant, non ?
Carrément. Alors, qu'est-ce qu'on bouffe ?
Et bah, qu'est-ce qu'on bouffe ? Et avec qui, surtout aujourd'hui ? On a une invitée, du coup. Et notre invitée pour cette première émission a été maraîchère, maintenant formatrice, entre autres. Elle est bien connue par ses pairs pour avoir été à la tête de l'AMAP de Rivarennes. Donc les fruits et les légumes, ça la connaît. Elle a la pêche, elle n'est pas dans les choux quand il faut les planter. Je te promets, il y a plein de jeux de mots qui sont mieux que ça après avec les fruits et les légumes. Ce sera beaucoup mieux. Elle vous racontera pas de salade sur son métier, c'est pour ça que d'ailleurs son métier maintenant, elle l'enseigne. Si vous voulez qu'elle monte sur ses grands chevaux, bah on parle là pour le coup vraiment de chevaux. Donc D'Artagnan et...
Echelon.
Et voilà, et Echelon, merci beaucoup. Elle est née le même jour que Carla Bruni et Jean-Luc Lahaye. Désolé, c'est pas incroyable, mais surtout que Champollion et le tsar Alexandre Ier. Personne travaille dans la bouffe, mais c'est pas grave. Elle est pas très fan des migales et des pitons qu'elle pouvait avoir chez elle, ça je sais. C'est la reine de la greffe de tomates et elle fait le meilleur tiramisu du monde, on m'a dit apparemment. Ah, je ne vais pas goûter aujourd'hui, mais tant pis. Bon allez, je vous fais pas plus poireauter, c'est Mathilde Bartholmé. Salut Mathilde.
Salut.
Comment ça va ?
Ça va bien.
On fait genre, on t'a pas demandé alors que ça fait une demi-heure qu'on est ensemble et qu'on te demande comment ça va, mais on va faire comme si on ne savait pas.
Ouais, tout le monde a l'air de bonne humeur ce matin, c'est parfait.
Bah ouais, on est plutôt pas mal. Alors, bah, toute première émission de Qu'est-ce qu'on bouffe ? Trop content que ce soit avec toi en plus. On va pouvoir parler de plein de choses trop intéressantes. Et puis, bah voilà, nous on va se présenter quand même rapidement pour que les gens soient au courant. Donc moi, c'est Maxime. À la base, je suis sommelier, caviste, je travaille dans la restauration comme caviste à l'heure actuelle. Et puis, bah, surtout Robin.
Et moi, Robin, bah, je suis cuisinier, restaurateur, sur tour, voilà, avec un restaurant traditionnel, travaillant plutôt des produits bio et naturels. Pareil pour les vins. Et on avait envie de discuter tout au long de l'année avec les gens, les producteurs avec qui on bosse.
Mais ouais, tu peux dire un restaurant chez Gaster.
Un restaurant chez Gaster, exactement.
Qui a 7 ans depuis pas très longtemps.
Depuis 2 semaines. Donc, grave, voilà. On vient de fêter nos 7 ans. Bah et oui. Tout se passe très bien.
C'est ça, exactement.
Et on a commencé avec Mathilde, qui a été notre première maraîchère, que moi j'ai rencontrée il y a une quinzaine d'années déjà. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'invite aujourd'hui et qu'on commence par elle comme invitée.
Bah ouais, tu m'étonnes. Je fais un petit sommaire de l'émission quand même, que les gens sachent à quoi s'attendre. On va faire un petit jeu pour se mettre un peu en jambes. On parle quand même un petit peu de bouffe, hein, je vous rassure, on va rester dans la thématique. Après ça, on va parler quand même forcément de Mathilde, de ton parcours, de ton travail à l'heure actuelle, de ce que tu as pu faire, que tu nous expliques un peu ta vision des choses au global, ça va nous intéresser. On va aussi, vous aurez un petit fil rouge tout au long de l'émission, on va pouvoir déguster une bouteille. Alors, c'est pas une excuse pour boire à 10h du matin, je vous rassure. C'est
vraiment... Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
À consommer avec modération.
Quand même envie de goûter du vin à l'aveugle et voilà, vous faire découvrir tout au long de l'année la manière dont on en parle et comment on décrypte et on essaye de trouver quel est le vin qu'on est en train de goûter sans savoir. Et pour ça, c'est une collègue de chez Gaster qui nous choisit une bouteille secrète. Personne ici l'a vue.
Personne. Promis, on ne triche pas. On va parler aussi, forcément, tu auras un petit conseil à nous filer, un petit conseil culinaire. Bah, Mathilde aussi, sur forcément les choses.
De... Bah, Mathilde nous parlera des produits qui poussent en ce moment, quoi,
oui,
de
la
saisonnalité. Et puis on verra si j'arrive à coller un petit conseil culinaire là-dessus, ça sera pas mal.
Exactement. On va pas parler d'asperges, normalement, cette période de l'année, on est à peu près tranquille. Et puis voilà, c'est quand même plutôt pas mal, je pense. On va commencer. Bon, on va commencer avec un petit jeu.
On attaque le jeu, vas-y, Max.
Ouais, on va commencer avec un petit jeu. Ça va, t'es un peu joueuse ou pas?
Allez, allons-y.
Ouais. Elle a l'air un peu sceptique quand même, mais...
Non, ouais, c'est pas trop à quoi s'attendre.
Voilà, c'est ça.
Mais non, mais
je
c'est normal.
Je sais pas quelle sauce je vais te manger.
C'est un twister, à la radio ça va rendre vachement bien, tu vas voir.
C'est clair. Alors, tac.
En attendant, normalement c'est Maxime voilà, qui prépare le jeu. Ça reste des questions sur le thème un peu de la bouffe, on verra. C'est un petit question-réponse, un petit choix version QCM. On va voir comment ça se passe.
Exactement. Alors pour commencer, je fais un petit jeu. Je pense que vous allez avoir différentes thématiques toutes les semaines, mais ça va être toujours un peu le même principe. Là, cette semaine, on va parler de la reine Claude, le fruit, ou la reine Claude, la reine. Tu vas voir, c'est très simple. Pas des questions très compliquées. Alors, il y a Robin qui va jouer aussi. Hein.
Je suis chaud.
Bah oui, non, mais tu vas voir, ça va être très simple.
Allez.
Alors, est originaire d'Asie, le fruit ou la reine?
Le fruit.
Ouais,
bien
je
joué.
Pense que celui-là, il était facile. Était duchesse de Bretagne.
Bah, la reine Claude, la personne.
Ouais, la personne.
Dame.
Exactement. Et liée à François Ier.
La dame, on va dire.
Bah, les deux, en fait.
Okay. Ah, bah, il mangeait des reines Claude.
Bah, exactement, je vais vous en parler après parce qu'il y a un lien qui est quand même... vous allez vite comprendre. Et offert par les Turcs à la France.
Bah, la reine Claude, fruit.
Le fruit, oui.
Ouais, ça
j'espère. Vaudrait.
Bah ouais, c'est ça, justement,
même
c'est
si
le boulot.
C'était pas hyper.
Voilà, c'est pour ça. Et petit lien avec Tours, a vu son premier mariage annulé à Tours en 1506.
Ah, donc la reine Claude, la personne, je pense.
Ouais. Exactement. J'en profite pour revenir sur François Ier, du coup, parce que les deux sont intimement liés, tout simplement parce que c'est les Turcs, effectivement, donc Soliman le Magnifique, un de ses émissaires, qui avait offert cette prune, du coup, bien différente, la reine Claude, en cadeau, un petit plan de reine Claude. Et qui a été nommé comme ça aussi parce que sa femme, c'était la reine Claude. D'où
okay.
Le nom, tout simplement. Ça va, c'est facile, tu vois. C'est
pour ceux qui ne savent pas, c'est une prune à la peau verte, assez claire. Voilà, super juteuse, vachement le goût. Ça fait quand même partie des prunes avec la Mirabelle qu'on consomme le plus et qui sont le plus intéressantes à manger comme ça. Quoi.
C'est ça. Tu en avais cultivé un petit peu?
Non, j'en avais un petit peu, mais comme ça pour nous. Mais ouais.
Ça va, c'est pas trop compliqué ou...
Ça pousse tout seul un peu.
Voilà, c'est ça. Seul, ouais. S'il n'y a pas trop d'asticots, les bonnes années, c'est pas mal.
Ouais, carrément. Délicieux. Et on ramasse ça quand?
Eh ben, on ramasse ça quand, du coup?
Quand c'est mûr.
Quand c'est mûr.
Déjà.
Ouais, mais à quelle période de l'année?
Bah, plutôt l'été.
Ouais.
Ah, c'est plutôt l'été en général, ouais.
En août, même fin d'été, non?
Ouais, fin juillet.
Ouais, fin juillet, août.
Donc on n'est pas trop de saison, je suis désolé, mais voilà.
Pas grave, pour l'année prochaine.
Ouais, c'est ça, exactement. Alors après, c'est plutôt une petite question, je vais vous laisser deviner. N'hésitez pas à poser des questions aussi pour faire avancer un petit peu le truc. Parce qu'au Japon, dans la préfecture de Niigata, il existe une façon de cultiver les légumes d'une certaine façon qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Je vous demande laquelle.
Au Japon.
Niigata, c'est nord-ouest de Tokyo.
Ok. Une manière de cultiver les légumes qui
n'est
pas banale.
Qui n'est pas banale, exactement.
Hors sol ouais.
Bah, ça existe ici aussi.
Ouais. Je crois pas que ça existe ici, j'ai pas trouvé d'informations. C'est vraiment.
Ouais, mais Simon disait hors sol. Alors, Simon, c'est le régisseur. Il est là dans son vocal juste derrière avec nous. Mais c'est lui qui gère toute la partie technique et qui intervient de temps en temps. Si vous entendez une voix qu'on n'a pas présentée encore, c'est Simon.
C'est vrai qu'on l'a pas présenté, je suis désolé, Simon, t'es dans ton vocal. On ne voit pas, mais tu es là, tu es avec nous.
Y a pas de souci.
Du coup, ouais, de quelle façon c'est fait? Alors, plutôt de quelle façon. Comment dire? C'est plutôt, effectivement, c'est pas du...
Est-ce que ça utilise de la terre, quand même?
Pardon, ça utilise de la terre, effectivement, mais comment dire? J'essaie de trouver un truc pour pas trop vous en dire non plus.
C'est fait dans des containers, avec des lampes et tout.
Non, mais c'est effectivement la façon qu'il y a autour, un peu... comment dire? C'est pas sous serre, c'est sous quelque chose. Mais sous quoi?
Sous une montagne?
À sous une montagne, carrément.
Il y a pas mal de montagnes au Japon, c'est une île évidemment. Mais,
non, exactement. Je sais pas, t'as des manières un peu bizarres, donc t'as pu. Enfin, bizarre, je sais pas, des trucs que t'as pu tester.
Alors, du coup, on est loin du travail de Mathilde.
Ouais, mais là, normalement, les légumes ont besoin de lumière, donc j'ai du mal à savoir comment autrement que dans une serre couverte.
Ouais, mais c'est justement la spécificité. Là, on est au nord-ouest du Japon, on est dans les montagnes, l'hiver, dans les montagnes.
Sous la neige. Sous les igloos.
Ouais.
Enfin, un genre d'igloo, mais sous la neige, quoi.
Bah, en fait, c'est même pas dans un igloo, c'est sous la neige, exactement. Ouais. C'est une technique qui existe au Japon depuis longtemps, où en fait, ils laissent les légumes tout l'hiver sous la neige pour que ça puisse pousser et tout ça. Et apparemment, il y a un vrai intérêt là-dedans, notamment pour que les légumes finissent plus sucrés. Alors, ils font beaucoup ça avec le chou, à la base, qui est assez réputé en l'occurrence.
Ah, de toute façon, il faut des trucs qui tiennent un petit peu le froid quand même.
Exactement, mais apparemment, ça ne pourrit pas du tout. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps. Donc je vous le fais en japonais, je suis désolé pour l'accent. Ils appellent ça le yukinoshita, donc qui veut dire sous la neige.
Mais bien sûr.
Mais bien sûr, mais tu parles japonais, toi, j'avais oublié. Tu étais allé en plus. Ah, t'avais pas entendu parler de ça, ça va du coup?
Non, pas du tout.
Non, bah, c'est un truc qu'on va pas trop faire ici, puisqu'on n'a pas trop de neige de toute
façon.
Mais
du coup, c'est la culture ou c'est juste la conservation?
Non, c'est la culture, je crois, parce que j'ai déjà lu là-dessus.
Ça
pousse
vraiment sous la neige. Ouais. Enfin, ça commence à pousser un petit peu, je pense qu'il se met à neiger justement à arriver.
Quand c'est déjà formé, mais après, ça grossit sous la neige.
Exactement. Et puis du coup, ça permet aussi d'avoir effectivement plus de sucrosité dans les légumes que tu peux pas avoir ailleurs, et c'est vraiment un truc qui est assez réputé au Japon.
Bah écoute, on se renseignera un peu plus sur la question, mais très intéressant.
Mais voilà, je me suis dit autant parler de légumes, de faire un petit truc un petit peu différent. Est-ce que tu veux pas ouvrir cette petite bouteille dont on avait déjà parlé un petit peu là?
Bah oui, bien sûr. Tu peux rappeler ce que c'est que la bouteille secrète?
La bouteille secrète, c'est une bouteille qui nous est sélectionnée par un membre de mon équipe chez Gaster, et Fanfan en l'occurrence, qui nous sélectionne chaque semaine une bouteille secrète achetée chez un caviste à Tours ou directement chez un vigneron. On vous donnera les adresses, et le but, c'est de goûter un peu tout au long de l'émission et de savoir, d'arriver à deviner quelle est cette bouteille et de décrypter un peu comment on déguste le vin pour arriver à savoir ce que c'est.
Bah oui. Bon, là, on va se laisser un petit temps aussi qu'elle s'ouvre. On va pas forcément la déguster maintenant, on va attendre un petit peu.
On vient juste de la déboucher.
Vous avez pas eu le bruit, mais promis, on vient juste de la déboucher. Et vraiment, on sait pas ce que c'est. Le but, c'est qu'on le fasse ensemble et qu'on puisse en discuter aussi avec Mathilde, se faire des petites impressions. Et après, voilà, on n'est pas avec une vigneronne, mais tu bois du vin.
Un petit peu, ouais.
Ça t'est déjà arrivé de boire du vin, ouais, ouais. Effectivement. Bon, après, plutôt local ou...
Oui, plutôt local, de préférence.
Ouais. Ouais, on est quand même très, très local aussi. Et puis, on va se faire une petite recommandation musicale. Il y a des trucs que tu aimes bien écouter en ce moment, que tu as envie de partager?
Ouais. Là, j'ai un titre en ce moment de Romane Beaugrand, qui est une chanteuse du groupe Solune, qu'elle a formé avec son frère, que j'ai rencontré en 2017 à l'occasion des Campagnards, où ils avaient gagné le tremplin Campagnard. Et je les ai invités à la suite à un petit festival que j'organisais chez moi.
Le Brin dans le Jardin.
Donc ce groupe-là s'appelait Solune, et là elle vient de sortir un album, enfin deux titres, avec Jean du Voyage. Donc c'est un morceau plutôt rap avec de l'électro qui est assez sympa.
Universe is atypical, I'm not afraid. Flying around as an oracle, I would say. Skin brown, have no bounds. Called a creepy clown, talk with different sounds. Hate the noisy towns, I've got a way. I found miracles hidden outside. Have rituals in my own guides. Water, earth and fire, summoned in my towel. I'm way away from any soul. Thank you. is a paradox I admit. Figuring out the invisible, I'm on it. So philosophical, imperceptible, magical. Equinox talks to my particles. Have old animals hidden inside. It's the reason why I'm being profound. They keep me like a treasure. I'm looking at the future. I'm on the way, I'm not alone. Real light on the typical minds. Written inside my typical fairy tale. Whoa, it's no typical plan. And if I doubt, I'm a chemical anyway. It's physical, feeling everywhere. Invisible spirits in my soul. They know how to keep it slow.
D'écouter le morceau Atypical de Roman Beaugrand. Vous êtes toujours dans l'émission Qu'est-ce qu'on bouffe sur Radio Béton 93.6. Et du coup, qu'est-ce qu'on boit là en l'occurrence?
On vient juste de. Qu'est-ce qu'on boit? On vient juste de commencer à servir les verres. On a commencé à sentir un petit peu, mais.
Pour découvrir la bouteille mystère, bouteille qu'on nous a ramenée ou cachée. Nous, on ne sait pas ce qu'on boit et on doit deviner tout au fur et à mesure. Alors, Mathilde et Max qui commencent à sentir le vin. Bon, déjà, on est sur du vin rouge.
Ouais,
a priori, ça c'est un truc qu'on peut décrypter.
Celui-là on l'avait.
À l'œil.
Celui-là on l'avait, il n'y a pas de problème. Alors aussi peut-être à dire quand on goûte le vin, là effectivement nous on le fait tout seul dans notre coin, vous ne pouvez pas participer avec nous, celles et ceux qui écoutent. En général quand on commence à déguster du vin, effectivement tu as parlé de la couleur, c'est important de commencer à parler de ça, déjà pour identifier le vin, potentiellement ça peut donner des indications sur les cépages qu'on peut utiliser. Les cépages, je fais du baba, hein, mais c'est la variété, en fait, tout simplement de raisin. Il y a plusieurs familles, il y a peut-être certains que vous connaissez, les pinots noirs, les chardonnays, parmi les plus connus. Dans le coin, on a le cabernet franc, on a
cabernet
le chenin.
Le sauvignon.
Le sauvignon, exactement. Donc voilà, ça peut nous aiguiller des fois la couleur un petit peu là-dessus. Et après, on sent, parce que c'est une mine d'informations, mine de rien, de pouvoir sentir.
Et après, plus on en sent, plus on prend l'habitude, plus on repère des caractéristiques, etc. Il y a certains cépages comme un fruit, comme n'importe quel autre fruit. Là, c'est fermenté, mais globalement, ton odorat sert à deviner un peu ce que c'est.
Exactement. Bon, qu'est-ce que ça sent, du coup?
Mathilde?
Ça sent le vin nature, déjà.
Donc, qu'est-ce que le vin nature?
Ah, vas-y, explique, je t'en prie.
Eh ben, on parle de vin qui a été vinifié sans intrants, c'est-à-dire sans soufre, en tout cas pour la vinification. Toujours cultivé en bio, labellisé ou pas, mais en tout cas, le travail est fait sans chimie dans les vignes. Et pareil, dans la transformation au chai. Donc voilà, le vin est macéré pour les rouges, pressé directement pour les blancs, et après, pendant toutes les phases de fermentation, jusqu'à la mise en bouteille. Pas d'intrants, ça reste que du raisin et que les levures et les sucres naturels contenus dans le raisin.
Tout se fait très naturellement en fait, la fermentation, faut juste surveiller 2-3 petits trucs, mais c'est assez naturel. Effectivement, ça sent le vin nature, il y a peut-être des gens à qui ça peut faire peur le vin nature ou quoi que ce soit, ou qui se disent que ça peut être...
Alors là, si tu veux, ça sent, parce que c'est expressif au nez, je pense, c'est pour ça que Mathilde
dit ça.
C'est pour
ça que je précise.
Pour autant, il n'y a pas de déviance aromatique, je trouve. Quoi. Ça sent plutôt le fruit, assez franc.
Ouais, c'est assez fruité, globalement.
C'est quand même assez fruité, une petite touche un peu poivrée quand même.
Ouais, t'as un peu de tanin aussi.
Ah, moi, comme ça, on est dans la première impression. Mathilde, qu'est-ce que tu dirais?
Est-ce que ça te plaît déjà?
Au nez, ouais, c'est intéressant. Ça sent le vin nature parce qu'on se prend quand même un petit coup de gaz dans le nez, je trouve, un peu.
Exactement. Le gaz, en général, c'est ce que les vignerons laissent, qui permet aussi au vin de se protéger et d'éviter de tourner à ce moment-là. Parce qu'on ne met pas de produit chimique qui va permettre au vin de se conserver. Donc, y a un
la saturation de gaz carbonique dans la bouteille permet de conserver et d'inerter le petit air qui reste. Voilà.
Qu'est-ce que tu entends par inerté?
Eh ben,
développe.
Empêcher l'oxygène de se mettre et le développement de bactéries arrive pas avec de l'oxygène.
Impeccable. Non, mais moi, je trouve que ça sent très très bon. En tout cas, tu as envie d'y aller. Mais pourtant, on vient d'ouvrir la bouteille. Effectivement, il y en a peut-être certains qui le savent déjà. Il faut ouvrir certaines bouteilles à l'avance. Ça a besoin de s'aérer. Il y a des petites préparations à faire en amont.
Ouais, bah ça, par exemple, ça sent. Ça va évoluer tout au long. Je pense que c'est pas mal. On va en décrypter un petit peu plus. Au fur et à mesure.
Exactement. Après, le jeu, c'est de savoir est-ce qu'il y a un seul cépage, est-ce qu'il y en a plusieurs. Ils ont tous leurs petites caractéristiques.
Ah, moi, j'ai déjà un avis. Mathilde, est-ce que tu as déjà un avis sur ce que c'est?
Alors, est-ce que c'est piège un peu au niveau des cépages? On ne sait pas, du coup. Est-ce que c'est quelque chose de simple?
Genre, si tu as un truc à dire, est-ce que ça ressemble à quelque chose que tu as déjà bu?
Il y a un petit côté poivré qui pourrait rappeler le Pinot de Nice, mais voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça, je crois.
Ah bah c'est pas mal, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment un petit peu ce profil-là au nez, peut-être gamay, ouais. Pinot de Nice.
Moi, je suis complètement d'accord, et ouais. Voir peut-être un peu de Cabernet Franc. Il y a un truc qui me rappelle un tout petit peu le Cabernet, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, au Nice, on est...
Je te rejoins sur le Cabernet Franc, j'avais ça aussi justement sur le côté...
Allez,
là, je trouve
gamay au Nice pour Maxime et Mathilde. Cabernet au Nice pour Simon et Robin.
Ouais, on y reviendra au fur et à mesure. Pour rappel, l'abus d'alcool est évidemment dangereux pour la santé, même s'il est 10h30.
Surtout
il faut boire
à
10h30. Avec modération.
Exactement. Est-ce que tu as des... Parce que là, on parle de cépage, donc on a expliqué le fait qu'il y a différentes variétés pour chaque fruit, pour chaque légume. Est-ce que toi, il y a un fruit, un légume que tu as pu travailler où tu te disais, waouh, la vache, il y a tellement de variétés différentes, c'est tellement intéressant à travailler et pas juste d'en faire une seule variété?
Beaucoup, beaucoup. Ouais. Beaucoup de légumes, en fait, où il y a beaucoup de diversité. Surtout quand on doit fournir des légumes toutes les semaines aux mêmes personnes, on est obligé de...
Alors là, on doit revenir un peu sur le mode de travail. Non, pas de souci. Mais toi, tu fonctionnais, vous fonctionnez à l'époque, à la salle, en système de distribution en AMAP.
Oui.
Alors déjà, qu'est-ce que c'est les AMAP ?
La MAP, c'est une association, le terme c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. L'idée c'est en fait que des consommateurs s'engagent sur une année complète sur des légumes que nous produisions au jardin. Du coup, les gens n'avaient pas le choix de ce qu'ils avaient comme légumes. On s'adaptait, nous, à notre terroir et du coup, on produisait ce qu'on pouvait faire en fonction des saisons. Et toutes les semaines, les gens venaient récupérer leurs légumes.
Oui, c'est une association, un partenariat entre les consommateurs et le producteur.
L'intérêt pour le producteur, c'est du coup d'avoir une trésorerie à l'avance. On savait qu'on devait faire 100 paniers de légumes par semaine, donc on mettait en place une production à l'avance pour ces 100 familles. L'intérêt, c'est que du coup, tout était redistribué à ces familles et qu'il n'y avait aucune perte. Et du coup, ils avaient aussi les avantages et les inconvénients. S'il y avait un légume qui était un petit peu foiré, bon, bah, tant pis pour eux. Par contre, tout ce qui était en production importante, eh ben, ils en avaient le bénéfice aussi. Donc, les années où il y avait beaucoup de tomates, ils avaient énormément de tomates.
C'est vraiment un partenariat entre les deux, quoi.
Voilà, on partage le risque ensemble. Et du coup... Ce principe amène à donner des légumes toutes les semaines aux mêmes personnes. Donc pour que ça soit un petit peu plus intéressant pour eux...
Il faut de la diversité.
Voilà, en développant la diversité, on va pouvoir aussi amener des saveurs un peu différentes. Donc diversité au niveau des légumes, au niveau des espèces, mais aussi au niveau des variétés. Donc par exemple en tomates, bon, c'est ce qui semble le plus commun pour les gens, la diversité de tomates... Voilà, on pouvait avoir jusqu'à 40-50 variétés de tomates sur l'été.
C'est vrai qu'on n'y pense pas assez, on connaît tous un peu les mêmes tomates, souvent c'est les mêmes qui reviennent, mais ça fait partie des légumes, enfin des fruits et légumes. Est-ce que c'est un fruit, est-ce que c'est un légume? Ça c'est un autre débat, on en parlera peut-être pas aujourd'hui.
On peut dire un légume-fruit, comme ça met tout le monde d'accord.
J'adore ce côté équilibré, tu vois. C'est un légume-fruit, c'est très bien. Mais on connaît tous plusieurs variétés, mais il y en a tellement qu'on connaît pas vraiment, auxquelles on n'a pas trop accès, parce que peut-être est-ce qu'elles sont toutes consommables de la même manière aussi?
Plus ou moins. Après, il va y avoir des tomates plus adaptées au coulis ou plutôt à manger cru en salade, des choses comme ça, plus à cuire. Non, après, c'est surtout en termes de production. C'est des variétés qui sont souvent moins productives, peu intéressantes pour le maraîcher, parce qu'il va falloir en planter beaucoup plus de travail.
Ouais.
Et c'est pour ça que ces variétés anciennes, souvent, ont été un petit peu abandonnées, parce qu'elles n'étaient pas très intéressantes en termes de production.
Voilà. Et toi, sur les dernières années, parce que j'ai pu te voir à l'œuvre en venant chercher mes légumes à la ferme, mais tu t'étais mis à faire de la greffe sur les tomates.
Ouais.
Et donc, c'est-à-dire, c'est un peu sur le même principe que pour la vigne.
Ouais, l'idée, c'est d'augmenter le potentiel de la plante.
Mmh.
Du coup, le porte-greffe amène de la vigueur et de la production à une variété qu'on va greffer dessus.
Ok, parce donc, qu'il y a un enracinement plus rapide.
Il y a un enracinement et ce porte-greffe, il est issu d'un croisement avec une variété originaire d'Amérique centrale et qui est un solanum sauvage. Donc du coup, on a les propriétés de ce solanum sauvage qui est très résistant aux maladies et très vigoureux. Donc,
oui, parce que la tomate, c'est assez fragile.
Fragile en termes de problèmes sanitaires.
Que tout le monde soit bien tous d'accord, on parle de ça techniquement qui peut paraître un peu chimique, il n'y a aucune chimie là-dedans, ça reste naturel de greffer.
Alors, c'est naturel entre guillemets, oui. Suivant.
Je veux dire, c'est du matériel végétal.
Oui, on peut greffer du matériel végétal sur un autre matériel végétal. Ça, voilà, il n'y a pas de génétique là-dedans. Le problème, c'est que souvent, ces porte-greffes ont été développés par l'INRA.
Mm-hmm.
Et du coup, c'est des variétés hybrides qu'on a recroisées avec une variété sauvage. Donc,
c'est plus des francs de pied. Comme on dirait pour la vigne, les francs de pied, c'est en parlant des vignes de la variété de raisin même, ou du coup, de la race, de la variété végétale même plantée à même le sol. Et sinon, c'est des greffes. Mm. Et voilà.
Ouais, en tout cas, t'es vraiment. Enfin, moi, c'est ce que me disait Robin aussi avant l'émission, c'est que t'es genre les greffes de tomates, t'en fais beaucoup.
J'en ai fait beaucoup.
T'en as fait beaucoup.
Ouais, j'en ai fait d'abord pour moi, pour essayer pour mon exploitation, justement pour essayer d'augmenter un peu le potentiel de production des variétés anciennes. Et après, en fait, à force de le développer, je l'ai proposé à des copains maraîchers. Et voilà, j'ai commencé comme ça, à vendre un petit peu à d'autres maraîchers. Je faisais 3000 greffes à peu près par an.
C'est pas mal déjà, 3000 greffes.
Ouais, parce que j'étais pas forcément équipé trop pour. Et puis, parce qu'il y avait aussi le jardin à produire, donc je faisais pas que du plan. Donc c'était, je me suis limité à 3000 et c'était déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Mm. Mais c'est vrai qu'effectivement, on en a pas trop parlé, mais t'as une licence expérimentation du végétal.
Oui.
Est-ce que c'est dans la continuité de ça que t'as fait justement toutes les greffes ou...
Ça m'a peut-être poussé à expérimenter des choses, oui. Le fait d'avoir travaillé dans l'expérimentation. Ça m'a donné le goût de tester certaines techniques. Je pense que ça a joué sur...
En revient à la productivité, c'est-à-dire que tu t'es mis à faire ces greffes pour avoir un petit peu plus de productivité sur les variétés anciennes, parce que vous travaillez aussi en bio sur certains terroirs, et donc t'as pas les mêmes rendements que tout le monde. Qu'est-ce que ça représente en termes... Est-ce qu'il y a c'est quantifiable la différence de rendement par rapport à un maraîcher conventionnel et en bio, que les gens se rendent compte un peu de ce que ça implique sur la production?
Alors ça dépend de plein de choses. Ouais. Ça va dépendre du maraîcher, de lui, ses capacités à cultiver, parce qu'en fonction de son sol, déjà la priorité, c'est gérer son sol. Donc si la personne ne sait pas gérer son sol, la plante va avoir du mal à s'alimenter,
se développer
correctement. Alors c'est sûr qu'en du coup c'est beaucoup plus technique en bio, parce qu'on amène des éléments naturels qu'on contrôle moins, du coup on joue avec la vie du sol, alors que en conventionnel on oublie un petit peu le sol et on apporte ce qu'il faut à la plante tout en utilisant le sol comme un support et plus comme un milieu vivant. Donc c'est beaucoup plus technique et du coup on a plus de possibilité de se planter en bio.
Mmh. Ouais, parce qu'on est aussi plus sur du préventif que du curatif, tout simplement.
Donc. Aussi, oui. Oui, oui. Donc, au niveau du sol, ça va être très important. Mais aussi, tous les problèmes sanitaires qu'on peut avoir, tous les champignons, tous les ravageurs, les insectes, vont aussi se développer en fonction des conditions du milieu.
Ah, je le vois, moi, au restaurant, quand on lave les légumes et les salades, etc., on en a toujours en plus des insectes et tout, qu'on lave correctement, c'est notre travail. Mais pour moi, c'est plutôt un bon signe quand j'achète quelque chose et qu'il y a quelques bestioles de vivantes dedans. Ouais. C'est, voilà, sur un légume qui a poussé en extérieur et en pleine terre, ça me rassure toujours sur ce que je mange.
Ouais, et puis, c'est des trucs que, forcément, quand vous achetez, si vous achetez vos fruits, vos légumes en grande distribution, c'est rare de voir effectivement des fruits et des légumes où effectivement il y a des insectes, des choses comme ça. Parce que,
bah, sur un étalage, non, t'en vois pas au supermarché.
Bah, un peu compliqué. Déjà, les fruits qui sont moches ou les légumes qui sont moches, c'est compliqué à vendre, on le sait, c'est un vrai problème là-dessus. Mais le goût dépend pas de ça de toute manière. Donc voilà, faites, ne vous braquez pas s'il y a des animaux dans des vers dans une salade ou je sais pas quoi. Mais,
ah, faut pas qu'il y en ait une tonne, mais,
non, mais voilà.
s'il arrive qu'il y en ait, il n'y a pas de problème.
C'est ça vous fait des normal. Protéines en plus, hein, après, c'est pas très très grave. C'était de quand à quand, du coup, la MAP arrive à Rennes ?
La MAP arrive à Rennes a commencé en 2015 et s'est arrêtée il y a 4 ans, voilà, donc en 2020-21.
En 2005 ?
J'ai dit quoi ?
2015.
Oui, 2005. Oui, ouais. Il y a eu 15 ans de maraîchage, ouais.
Donc 2005, il n'y en avait pas beaucoup dans
2005,
le coin.
2005, quand on s'est installé avec mon compagnon, on s'est installé en même temps que Xavier Mathias et Francis. Donc on était les deux premiers la même année.
Ok.
Donc les AMAP, c'est quelque chose de récent, récent.
Oui, ça a commencé au début des années 2000.
Voilà, ça a commencé vers Toulon avec Daniel Vuillon. Et du coup, Mathieu, mon compagnon de l'époque, avait travaillé pour ce monsieur-là qui avait mis en place les AMAP en France. Donc oui, quand on est arrivé en Indre-et-Loire, les AMAP démarraient tout juste, étaient encore peu connus, et dans le département, c'était le démarrage.
Mmh. Ouais. Ça n'a pas été trop compliqué, justement, le démarrage, de se faire connaître, de savoir que les gens pouvaient venir vous voir, prendre des légumes, consommer différemment ?
Ouais, c'était assez compliqué au démarrage, parce que c'est un principe que les gens connaissaient pas, et il fallait qu'il règne un climat de confiance entre eux et nous, puisqu'il y avait un partenariat à mettre en place, et s'engager sur... Donc on avait démarré sur un engagement sur 6 mois. Donc voilà, des gens qui ne nous connaissaient pas, qui allaient s'engager sur 6 mois de légumes, c'était un petit peu étonnant pour eux. Du coup, on avait fait...
C'est chouette d'avoir des gens qui font ça.
Ouais, on avait fait une petite rencontre, un petit pique-nique avec une dizaine de personnes. Et on leur a fait goûter nos légumes, et voilà, ces personnes-là ont commencé à s'engager juste en goûtant nos légumes. Et du coup, rapidement, le bouche à oreille a fonctionné, et les gens, le bouche à oreille, les gens, ils ont confiance, puisque c'est les amis qui leur conseillent de venir.
Et bien
donc
sûr.
Très rapidement, ça s'est développé.
Et au fur et à mesure, vous vous êtes aussi associé avec d'autres producteurs dans la MAP. Il y a eu d'autres produits de proposer en distribution.
Ouais. Donc l'idée, c'était de proposer d'autres produits locaux, issus de l'agriculture biologique. Donc on a commencé avec un producteur de fromage de chèvre qui était en bio depuis déjà des années, qui est venu nous voir pour distribuer ses fromages à la MAP. Puis les pommes, puis des poulets, puis des œufs, puis du pain, puis même des agrumes de Corse. Enfin, finalement, on a eu
Des pâtes, un peu de produits transformés, des légumes secs.
Voilà, des farines. Donc, il y a eu un panel de produits importants. Et du coup, ça permettait aux gens d'avoir un lieu de distribution où ils avaient connaissance des producteurs. Donc ça, c'était hyper important aussi.
Et les distributions se passaient le soir, deux fois par semaine.
Deux fois par semaine.
Directement à la ferme.
Sur la ferme. Donc ça permettait aussi aux gens de voir le lieu, de production. Donc ça, c'est assez important aussi. Les gens se rendent compte du travail et de ce que ça représente un jardin maraîcher. On était sur 2,5 hectares. Donc voilà, ça permettait aux gens de se rendre compte de la surface de travail que ça représentait. Et des fois, en pleine distribution, on allait lancer un arrosage, ou des fois, il manquait un légume, on allait chercher des choses directement au champ. Donc ça permettait aux gens de nous voir aussi un petit peu en action. Et puis il y a eu des moments de partage où les gens sont venus travailler aussi un peu avec nous sur l'exploitation.
Avec même certains moments particuliers avec des grosses bouffes faites avec tous les adhérents de la MAP.
Ouais. Des pique-niques, on avait des pique-niques d'organiser, puis pour permettre aux gens de se réunir entre eux aussi, ça a créé beaucoup de liens entre les Amapiens aussi. L'idée, c'est de créer aussi un monde un petit peu autour du jardin.
Ah, moi, j'ai quand même le souvenir d'avoir fait, je ne sais pas en quelle année c'était, ça a dû peut-être être 2013, 2014, peut-être un peu plus tôt que ça même, un cassoulet géant pour 70 personnes, quasiment 100% produit de la ferme, ouais. Tout au feu de bois, on cuisinait dehors, etc., avec tous les haricots, les viandes de la ferme, etc. Donc, ça a été un sacré moment, ça a duré 3 jours de préparation.
Ah, j'allais dire, ça prend du temps.
Ouais. Avec tout le monde qui filait un peu un coup de main, des journées sympas à échanger et tout, pour finir par un gros repas avec tout le monde. Et ça, ça reste un super souvenir pour moi, en tout cas, en termes d'expérience culinaire et de partage. Et ça m'a donné envie de continuer, moi, au restaurant, à travailler avec des producteurs en direct, et en tout cas, qui ont cette énergie, cette philosophie, et qui sont prêts à partager.
Ouais, t'es vraiment dans un truc où t'as envie de partager ça, effectivement, ce côté. Et tu disais que les gens étaient venus travailler avec vous. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui sont venus te voir en mode on peut venir travailler avec vous, voir comment vous faites ou...
Oui, c'est assez libérateur le jardin quand on travaille la terre. On est méticuleux, méthodique et des fois ça fait du bien de venir même juste désherber un rang de carottes. Ça permet de mettre un peu le cerveau en pause.
Et ça fait du bien au maraîcher d'avoir un petit coup de main sur ce travail.
À la fois,
qui
nous, on était bien contents d'avoir quelques coups de main de temps en temps, mais il y a quelques personnes qui sont venues volontairement parce que ça leur faisait du bien.
Ouais. Et vous avez accueilli pas mal de stagiaires.
Pas mal de stagiaires, ouais.
Beaucoup qui sont installés aujourd'hui, dans le coin.
Bah, comme on était un petit peu dans le démarrage des AMAP, du coup, ça séduit pas mal de stagiaires pour venir voir découvrir ce système de production. Et oui, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'anciens stagiaires qui sont installés, qui sont souvent aujourd'hui aussi en AMAP.
Oui, certains qui sont prévus dans notre liste d'invités tout au long de...
Ouais, on va pas spoiler, on en reparlera plus tard, il n'y a pas de problème. On n'a pas pris le temps d'en reparler, mais qu'est-ce qu'on boit? On n'a toujours pas la réponse.
Alors, on a commencé à goûter.
On avait commencé à goûter, déjà un petit peu, pendant qu'on parlait.
Déjà, l'évolution avec le temps, qu'est-ce que ça donne?
Ça prend un peu d'ampleur. Ouais. C'est un peu plus profond, l'air lui fait du bien, la texture, le vin est un peu moins serré quand il reste un peu de gaz et qu'on vient de l'ouvrir. On utilise le terme serré, c'est-à-dire comme un produit un peu renfermé dans une boîte trop petite, s'il s'exprime pas encore complètement, quoi. Là, avec l'air, ça prend de l'ampleur, ça gagne en profondeur, le goût est un peu plus, comment dire, profond. Mmh. Un peu plus long, quoi. On le garde plus longtemps. Les tanins s'assouplissent un peu, c'est un petit peu moins dur.
Et même la complexité aromatique n'est pas du tout la même. Au début, c'était identifiable, c'était très fruit. Moi, j'avais un peu de poivre et tout. Je trouve que ça devient un peu floral aussi, sur l'aromatique légèrement.
En tout cas, c'est dense. Il y a du jus, c'est du vin rouge. C'est pas une macération carbonique, je pense. Une macération carbonique, c'est ce qui se fait beaucoup dans le Beaujolais maintenant, un peu partout en France. Mais c'est des raisins macérés entières, grappes entières. Donc, on n'enlève pas les grains de raisin de la rafle et on laisse ça macérer, on presse ensuite, on assemble les jus et ça fait toujours des jus très clairs et sur le fruit. On en croise pas mal dans le vin nature et là pour le coup il y a un peu plus de densité. C'est un vin qu'on va appeler plus vinifié traditionnellement, donc avec peut-être des raisins un peu égrappés et trempés dans le jus qui extrait un peu de tanin. Et moi j'aime beaucoup en tout cas. C'est pour manger, c'est pas mal, tu vois. À 10h du matin, comme ça, c'est un peu plus raide, mais en tout cas, ça va très bien. Mathilde, qu'est-ce que t'en penses?
Là, je sens moins le côté gazeux, justement. Ça pique un peu moins le nez et c'est un peu plus agréable, ouais.
On va se relaisser le temps un peu de la réflexion. On va se réécouter un petit son. T'as un autre truc à nous faire découvrir, peut-être?
Oui, un petit groupe breton, Alizarina, que j'aime bien en ce moment. Avec un clarinettiste, un groupe qui n'est pas très connu, mais que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc l'idée, c'était de vous faire découvrir un truc moins connu aussi.
Trop bien.
Il n'y a pas de musique?
Non, enfin si, quelques chansons dans le film plus tard.
On nous dit, le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur.
Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose, si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on ne voit jamais.
Qu'est-ce que tu fais?
Je regarde dans ma tête.
Si on faisait un pas de côté, les queues ne tomberaient plus en face des guichets. Si on faisait un pas de côté, les fusils ne tomberaient plus en face des soldats. Chez soi, on s'en va chez le voisin. Si on faisait un pas de côté, les coups de pied n'arriveraient plus au cul.
J'ai fait un pas de côté, je me suis retourné, il a fait aussi un pas de côté et bon, je l'ai pris dans la gueule.
D'écouter En Thèse de Alizarina et vous êtes toujours dans l'émission Qu'est-ce qu'on bouffe ?
Alizarina.
Alizarina, mes excuses. Vous êtes toujours dans l'émission Qu'est-ce qu'on bouffe ? Sur Radio Béton 93.6.
Et alors, on en revient avec Mathilde. Qu'est-ce qu'on bouffe en ce moment ? Qu'est-ce qui pousse à cette saison dans le jardin ?
Alors, l'automne, c'est assez diversifié en termes de légumes à consommer. Mais c'est une période où il n'y a plus beaucoup de choses qui rentrent en production. Donc quand je dis rentrer en production, ça veut dire que c'est la période où on ne met pas grand-chose en place. En fait, on commence à manger tout ce qu'on a démarré au printemps, on commence à le retrouver maintenant. Donc il y a beaucoup de légumes qui ont des durées de production un peu longues. Par exemple, les choux qu'on va manger cet hiver, ils ont été semés au printemps. Voilà. Donc on a beaucoup de choses dans nos assiettes, mais on arrive en fin de production sur beaucoup de légumes. Donc c'est très diversifié, on va avoir toutes les racines qui ont été produites.
Après, en plus, il y a pas mal de légumes de conservation.
Voilà.
Qui se gardent.
C'est ça. Donc là, on les conserve et on enterre jusqu'aux premières gelées, où donc on va commencer à ramasser toutes ces... toutes ses racines bientôt là pour
contrairement aux Japonais.
Voilà. On laisse pas sous la neige. Bon, après ça pourrait. Hein,
mais... Tu peux développer les légumes quand tu dis les racines.
Racines, le plus connu ça va être la carotte. Mais donc dans les racines de conservation, il va y avoir les carottes, les céleris, les panais, les navets, les radis.
Les betteraves.
Les radis noirs, les betteraves, voilà.
Tout au long de l'hiver.
Donc c'est des légumes qu'on, pour la plupart, qu'on aura semés au printemps et qu'on commence, enfin, qu'on va ramasser bientôt pour les conserver au frigo ou en cave. Donc on va avoir possibilité de consommer tous ces légumes racines de maintenant, enfin même avant, jusque dans l'hiver, en fonction des moyens de conservation qu'on a.
On est aussi en plein dans la période d'un légume phare, un peu représentatif de l'automne.
Oui, alors après c'est la période aussi où on ramasse toutes les courges, encore une fois, avant les gelées, parce qu'elles vont craindre le premier gel.
Ok.
Donc l'idée c'est de les conserver au maximum au champ parce qu'elles vont prendre en maturité et les ramasser avant les premières gelées.
Et tout à l'heure quand on parlait d'une grande diversité de variétés, courge fait partie des légumes où c'est
vraiment,
pareil.
Vraiment, ouais, on peut s'éclater, les petites, les grosses, les sucrées.
Ah, c'est moins pratique pour les professionnels à ranger dans les frigos avec toutes les formes et toutes les couleurs, mais il y a vraiment plein de goûts différents. Et ça se marie très bien avec un autre produit, on en parlera sûrement la semaine prochaine avec un invité sur un type particulier, mais c'est la bonne période des champignons aussi l'automne.
Ouais.
C'est vrai qu'il y a des trucs cool, les champignons.
Et cette année, on est bien servi avec toute l'humidité qu'il y a là en ce moment. Si vous voulez aller faire un tour en forêt, attention aux chasses, mettez un petit gilet et regardez les panneaux d'affichage. Mais globalement, vous pouvez cette année rentrer un peu dans n'importe quelle forêt et trouver au moins des chanterelles et des pieds de mouton sans trop se fouler, quoi.
Et puis du coup, c'est l'occasion d'en parler aussi, mais il n'y a pas d'année type, on va dire. Je pense que toi, tu l'as vécu aussi pendant tellement d'années avec des choses très différentes. Il y a des années où tu vas être contente parce que tu vas dire qu'il fait un peu plus froid le printemps, tu aimerais bien qu'il fasse plus chaud pour certains légumes, mais peut-être pas pour d'autres. Est-ce que tu trouves que tu as une... Justement, je trouve pas qu'il y a une année type, mais un truc que tu préférais avoir quand tu travaillais les légumes, ou tu as vécu plein de trucs, j'imagine, quoi.
On est tributaire du climat énormément quand on est paysan. Donc oui, en maraîchage, en fonction du climat, on va avoir plus ou moins de difficultés à produire. Et encore une fois, ça va dépendre des méthodes de production, mais du sol. Donc si on a des sols plutôt lourds, plutôt argileux, on va avoir des sols qui retiennent beaucoup l'eau. Donc dès qu'il pleut beaucoup, on est un petit peu embêté pour travailler nos sols. Et il peut y avoir de l'asphyxie racinaire au niveau des plantes. Par contre, quand on est dans un terrain sableux, on est un peu moins embêté avec les excès d'eau. Donc voilà, en fonction de là où on travaille, ça va être plus ou moins intéressant d'avoir plus ou moins d'eau.
Et vous, toi, ton expérience, c'était plutôt sur un sol argileux,
ouais,
lourd.
Plutôt, c'était plutôt de la terre à vigne et à élevage plus qu'à maraîchage. Du coup, oui, au printemps, les printemps un peu humides, ça remettait en cause le début de production, donc c'était pas toujours évident. Mais on s'adapte aussi en créant des petites buttes, des choses comme ça, pour que le sol se draine plus facilement. Et puis sous surface couverte, sous abri, sous tunnel, on permet aussi de limiter forcément les intempéries. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sous tunnel en maraîchage, c'est pour pouvoir aussi améliorer le climat et que ça soit plus favorable pour les légumes.
Et en termes de qualité gustative, toi, moi, au restaurant, je sais que voilà, je travaille avec des maraîchers en bio, mais parce que je me retrouve sur la profondeur gustative, etc. Est-ce que ça change quelque chose, comment dire, chimiquement parlant, ou en tout cas sur la constitution du légume, de travailler comme ça?
Alors, globalement, c'est des légumes qui vont pousser moins vite qu'en chimie, qu'en production chimique. Donc, de toute façon, on est aussi dans le respect de la saison, parce qu'on ne chauffe pas. Donc, forcément, on respecte la saisonnalité des produits. Donc, ça, forcément, ça joue sur le goût. Et le fait de ne pas apporter de chimie au niveau des engrais, on va aussi avoir un légume qui va pousser plus doucement. Donc je pense qu'au niveau...
Ça développe un peu la profondeur...
Gustative, surtout en vitamines, je pense. Alors après, moi je n'ai pas fait d'études là-dessus, mais je crois qu'il y en a eu. Et, Et ça, ça a été prouvé. Donc oui, globalement, en bio, on a quand même des légumes plus satisfaisants en termes de gustatif et puis qualitatif. Mais encore une fois, le terroir va être très important. Quand j'étais maraîchère, je me souviens d'un copain qui travaillait la même variété de carottes que nous, mais dans du sable. Dans les terres plus sableuses, ces carottes avaient moins de goût que dans un sol plus argileux, qui retient davantage d'éléments organiques. Et du coup, on va avoir davantage de saveurs. Donc le terroir, comme pour le vin, va jouer énormément aussi sur la qualité gustative du légume.
Ok, trop bien, c'est très clair. Alors, en parlant de vin, qu'est-ce qu'on boit? C'est le moment du verdict.
Ah, exact,
hein. Faut donner son avis.
Faut dire les termes.
Mathilde, si tu devais dire ce que c'est pour toi.
C'est-à-dire le...
Ouais, le cépage, à peu près, la région, si t'as une idée.
Je resterai sur le Pinot de Nice, mais j'irai pas tellement plus loin. C'est peut-être un peu plus lourd qu'un Gamay, finalement.
Mmh. Ouais, carrément. Mais c'est vrai qu'on, de fait, de parler aussi de Cabernet Franc, qui a un peu plus de densité, un peu plus de structure de vin, je pense que, est-ce que c'est un assemblage ou pas? Potentiellement, je sais pas.
Toi, Maxime, ton avis?
C'est vrai que le Cabernet Franc, plus ça s'ouvre, plus je parle là-dessus. Effectivement, ce côté fruit noir. J'ai presque un peu ce côté, alors c'est assez léger, mais poivron, je trouve, du Cabernet Franc qui est assez, identitaire aussi de ce cépage-là, qui peut avoir ses gammes aromatiques. Donc, je trouve que c'est un peu bête, mais quand ça sent le poivron, je pense au Cabernet Franc.
Donc, le dernier mot, c'est du Cabernet?
À 100%, je sais pas, mais je pars surtout là-dessus. Majoritairement du Cabernet, je pense.
Ok. Simon, un avis?
Ouais, je partirais aussi sur le Cabernet. Je trouve que, contrairement à quand on l'a ouvert, où c'était quand même assez sur le fruit, je trouve que là, il y a encore plus de matière qu'avant. Et du coup, au début, on avait dit avec Robin, Onis, Cabernet. Je pense qu'il y a une majorité de Cabernet. L'Onis, je le perds un petit peu. Et je trouve que les arômes en fin de bouche, ils sont quand même assez. On est plus sur la gamme aromatique d'un Cabernet, je trouve.
Ok. Et moi, je reste sur l'Onis. Peut-être un tout petit peu de Cabernet, mais je pense à un Onis avec un peu d'extraction, un peu d'élevage en bois. Et voilà, je dirais plutôt fait dans le 72 si jamais j'avais. L'Onis, c'est quand même un peu une spécificité de la Sarthe. Il y en a un peu dans le 37, un petit peu dans le 41. 41, ouais. Mais ça reste très localisé par chez nous. On n'en trouve pas trop dans les autres régions. Et moi, je dirais Pinot d'Onis du 72 avec peut-être un petit peu de Cabernet Franc.
Je pense à préciser, parce que vu que c'est une bouteille qui est à l'aveugle et que nous on sait pas du tout, c'est une personne externe qui va s'occuper de prendre les bouteilles à chaque fois, de faire découvrir, on n'aura pas toujours du local.
Il y a une chaussette littéralement sur la bouteille, une vraie chaussette qui a servi et qui sent peut-être un peu.
Dévoile-nous ça, qu'est-ce que c'est?
Oh, et on s'est tous plantés, disons.
Ah, génial.
En plus, c'est un cépage assez difficile, c'est du Cabernet Sauvignon, 100%. Okay. A priori, en tout cas, c'est ce qui est écrit sur la bouteille, domaine de la Renouée.
Ok.
Donc, Fanfan a dû nous sélectionner ça chez un caviste. Le Cabernet Sauvignon, c'est un cépage, du coup, plutôt originaire du Bordelais.
Plutôt du Bordelais à la base, mais après, c'est toujours pareil, parce qu'on a parlé Cabernet Franc. Mm. C'est un cousin assez proche, le Cabernet Sauvignon. Pas que ça se ressemble très pour très, mais on était quand même. On a dit le mot Cabernet. Franchement, il y avait le mot Cabernet qui était bon.
Ouais, bien sûr. Mais non, et puis le Cabernet Sauvignon, c'est toujours un petit peu. Enfin, ça fait des vins, oui, denses, assez austères, c'est un cépage un petit peu rustique. Et là, vraiment, ça goûte très bien, quoi. Voilà, à manger avec. Il y a un petit peu de dureté. En tout cas, ça va super bien en automne. C'est tout à fait la saison pour boire ce type de vin un peu plein, assez ample. Et ça irait très bien pour manger si on pouvait faire un petit accord avec ça. Je pense que plutôt une viande braisée au vin rouge, de la joue, du paleron de bœuf, c'est la saison. À braiser au vin rouge, on peut remettre de la courge dont on parlait tout à l'heure en garniture. J'ai découvert la semaine dernière la courge, la bleue de Hongrie. J'ai adoré ça. Je trouve que...
Un peu musqué.
Ouais, aromatiquement, c'est vraiment très bon. La chair se tient bien. Il suffit de couper des tranches. La peau est fine et se mange. Ça, c'est aussi un avantage en termes de travail pour nous en cuisine, quand on est dans le speed.
Parce que les courges, toutes les peaux...
Non.
Mange pas.
Non, ça peut avoir une peau très épaisse. Et là, celle-ci, il suffisait de couper des tranches, de l'assaisonner. Sel, poivre, un trait d'huile d'olive, rôti au four, 3 quarts d'heure à 180 degrés. Et voilà, juste ça en garniture, après soit en vinaigrette en entrée, et sinon pour accompagner ce Cabernet Sauvignon avec un morceau de viande braisée au vin rouge, une cuisson lente et un truc chaleureux.
Ouais, moi ça m'inspire pas trop trop mal. Ça te va comme plat ou pas?
Ça a l'air pas mal.
Ouais, ça a l'air pas mal. Bon, on fait confiance à Robin normalement en général là-dessus.
Pour info, la bouteille a été achetée du coup à la cave du théâtre, cave caviste qui a ouvert et qui fêtera ses 3 ans fin novembre, qui est rue de la Sellerie. Donc, vin du Bordelais, mais pas dans une bouteille bordelaise. Je viens d'avoir Fanfan qui nous disait que c'était le piège. Vigne cultivée en bio, travaillée manuellement et vinifiée sans intrants, sauf pour le soufre à la mise. Voilà.
Ouais, qui permet de protéger un petit peu le vin, mais une fois que tout le vin a été fait aromatiquement sans intrants, on a plutôt quelque chose de juteux et très bon.
Je profite juste parce que, merci pour l'info, effectivement c'est une bouteille qui vient de Bordeaux mais qui n'est pas dans une bouteille bordelaise. Juste rapidement, soyez pas perturbés, ça peut être bizarre dit comme ça, il y a des bouteilles bordelaises, bourguignonnes, c'est pas parce que ça vient de là-bas à proprement parler, entre guillemets, c'est pas produit ou quoi que ce soit, ou c'est pas du vin qui vient de là-bas, c'est la forme de la bouteille. Donc la bordelaise c'est la bouteille qui est plutôt fine et lancée, et la bourguignonne c'est une bouteille qu'on appelle un peu plus épaulée, qui est un peu plus large en base.
Et après il y a toutes les autres qui sont plus chiantes à ranger dans les casiers.
Ouais, mais bon, en général,
les Alsaciennes et les Jurassiennes.
Ouais, on en parlera peut-être une autre fois. Là, il y a vraiment deux gros types.
Prochainement.
Ouais, c'est ça. Donc, deux grands types de bouteilles, la bourguignonne et la bordelaise. Donc, en général, quand tu es à Bordeaux, tu utilises une bordelaise. Sinon, c'est un peu blasphème pour beaucoup de bordelais. Comme quoi, on peut faire du bon vin dans une autre bouteille que ce que tu fais d'habitude. Il n'y a pas de problème.
Mathilde, pour finir, est-ce que tu as une adresse à recommander, soit pour aller manger ou on pourrait acheter une courge bleue de Hongrie ou une autre, ou voilà, des bons produits, un endroit que tu as envie de nous faire partager?
Pour des gens qui ont envie de manger sainement, les AMAP, c'est vrai que c'est pas mal parce que ça permet d'avoir souvent un panel de produits en plus des légumes. Donc il y a quand même pas mal d'AMAP dans le département. Moi, quand j'ai arrêté l'AMAP de Rivarennes, du coup, il y a une partie des adhérents qui sont allés à la ferme des Cassardières, donc qui est à Langers, donc la MAP des Cassardières. Donc Christine fait du maraîchage et des œufs. Donc s'il y a des gens autour de Langers, la MAP des Cassardières peut être une solution pour vous. Et après, si le principe des AMAP, vous trouvez ça trop contraignant, il existe des magasins de producteurs. Donc je vais rester autour de Langers parce que c'est vers chez moi. Il y a le Biocal qui est un magasin de producteurs qui se situe à la Chapelle Honneau, où du coup vous allez pouvoir trouver beaucoup de producteurs, dont du fromage de chèvre, du miel, des farines, des huiles, des lentilles,
des produits
des
de
pâtes,
saison.
Enfin plein de produits, des légumes, des fruits, voilà.
Ouais, super.
Des tisanes, plein de produits différents.
Il faut juste faire attention aux horaires d'ouverture, vu que c'est un magasin de producteurs tenu par des producteurs qui ont leur activité à côté.
Donc les Biocal, ils sont ouverts le mardi soir.
C'est fermé le jeudi, le dimanche et le lundi. Par contre, c'est ouvert le mardi après-midi de 16h à 19h, le mercredi de 9h à 12h, vendredi de 16h à 19h et samedi de 9h à 12h. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur Internet en tapant le Biocal à la Chapelle Honneau. Parce qu'ils ont pas de... Ils ont un site internet, je viens de voir ça. Et voilà, n'hésitez pas à aller les voir et vous approvisionner là-bas. En tout cas, on garantit la qualité des produits.
C'est vrai.
Ouais. Mathilde, merci beaucoup d'être venue. C'était
merci
trop cool.
Merci à vous. C'était bien.
Trop cool de t'avoir pour la toute première émission de Qu'est-ce qu'on bouffe. Je le rappelle, parce qu'on a bu de l'alcool. L'abus d'alcool, dangereux pour la santé, modération. Je fais pas toutes les phrases en entier, mais je pense que tout le monde a saisi l'idée. Mais en tout cas, parler de légumes de saison, trop intéressant. Faut pas oublier que ça a quand même la base, je trouve, juste même toi en tant que restaurateur, le
ouais,
légume
tout
est
à fait.
Hyper
c'est le but
important
de cette émission. Nous, on est très contents que Radio Béton nous ait proposé de faire ça en collaboration avec eux et sur leurs ondes. Voilà, maintenant, c'est pas notre métier, c'est notre toute première. On va s'appliquer et progresser de mieux en mieux. Merci Mathilde pour la première invitée.
Merci
à
vous.
Ça nous touchait et c'était important qu'on commence avec toi.
Merci.